Nicolas Tenzer, bonjour.
Bonjour.
Dans Notre guerre, le crime et l'oubli pour une pensée stratégique, vous appelez les pays occidentaux à prendre la mesure de la guerre totale que Poutine livre à l'Ukraine depuis le 24 février 2022. Tout d'abord, commençons par ce terme de guerre totale. Pourquoi utilisez-vous ce terme ?
Je parle de guerre totale parce que la volonté de Poutine, par idéologie, consiste à vouloir annihiler l'Ukraine comme pays et le peuple ukrainien comme peuple libre. Que cette volonté d'éradication de la liberté est un projet que Poutine nourrit, en réalité d'ailleurs au-delà de l'Ukraine, parce que aucun peuple de l'ancien empire soviétique n'a le droit d'être démocratique, d'être libéral. Poutine craint d'abord d'avoir une forme de contagion démocratique à ses portes qui un jour finisse par toucher le peuple russe. Mais au-delà, son projet est un projet de destruction radicale, une forme de nihilisme absolu de ce point de vue-là, de l'ensemble des normes qui ont fondé, en gros, pourrait-on dire, l'après-Seconde Guerre mondiale, que ce soit le droit humanitaire, que ce soit les libertés des peuples à disposer d'eux-mêmes, que ce soit tout simplement les valeurs d'émancipation. Il vise complètement à y mettre un terme. On l'a vu d'ailleurs, et pour moi c'est quand même l'élément fondateur de tout cela, c'était la Syrie. Lorsque, en Syrie, Poutine a massacré, aux côtés évidemment du régime d'Assad et de l'Iran, le peuple syrien. Il a tué, je le rappelle toujours, plus de civils que même Daesh en Syrie, ce qui n'a pas été suffisamment souligné, qu'il a commis des crimes. Vous avez eu en face des dirigeants qui ne l'ont jamais nommé criminel de guerre, qui nommaient certes quand même, c'était un peu gros, les crimes d'Assad, mais qui ne nommaient jamais ceux de Poutine. Et donc il a compris là qu'il parvenait à saper les fondements de l'ordre universel, parce que ce n'est pas uniquement occidental, ça concerne aussi des pays du Sud, des pays à l'Est, etc. Il a compris qu'il pouvait les saper sans aucune réaction de leur part.
Alors justement, dans votre livre, vous dites que la Syrie et les atrocités qui ont été commises sont le point zéro de cette phase de guerre totale.
Oui, parce que pour la première fois depuis la guerre en ex-Yougoslavie, et de manière peut-être encore beaucoup plus visible, compte tenu du développement des réseaux sociaux, vous avez eu des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité qui ont été commis au grand jour par une puissance membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, la Russie.
Concernant l'Ukraine, je précise que votre livre « Notre guerre » a été publié avant le 24 février, qui est donc la date des 2 ans de guerre en Ukraine. Et dans cet ouvrage, vous regrettiez que les dirigeants occidentaux, effrayés sans doute par le caractère radical de cette guerre en Ukraine, ne prennent pas la mesure de la réponse qu'impliquait ce conflit par une crainte de l'engrenage. Vous dénonciez leur naïveté. Mais le 26 février, lors d'une conférence sur l'Ukraine à Paris, Emmanuel Macron a suggéré l'envoi de troupes en soutien à Kiev. Il a d'ailleurs fait allusion à votre livre. Est-ce ce style de prise de position que vous appeliez de vos vœux dans votre livre? Pour vous, un tabou a-t-il été levé, justement, le 26 février?
Oui, incontestablement, parce que ça fait très longtemps que je suggérais, dans un grand nombre d'articles, de déclarations, dans des émissions de télévision, de radio, et dans le livre lui-même, l'envoi de troupes en Ukraine. Et je suis très content, effectivement, qu'Emmanuel Macron ait pour la première fois brisé ce tabou. Ça ne veut pas du tout dire que tout est réglé, loin s'en faut. Bien sûr, il le fait de manière prudente, avec sur la forme d'une hypothèse possible. Mais je crois que là, il y a eu une compréhension, en tout cas de la part du président français, du fait que d'abord que si à un certain moment l'Ukraine perdait, eh bien ça voudrait dire que Poutine mettrait la main sur l'Europe et l'irait beaucoup plus loin et qu'il deviendrait une menace globale pour l'Europe. Que deuxièmement, et ça c'est quand même cette réalité de la guerre, c'est qu'on ne gagne pas une guerre, ce que j'ai appelé notre guerre. On ne la gagne pas par procuration, on ne la gagne pas depuis l'arrière, en dirigeant en quelque sorte les opérations depuis Paris, en la faisant combattre par d'autres, en l'occurrence les Ukrainiens qui combattent et qui meurent pour nous. Et qu'il y a un certain moment, il faudra un engagement.
Alors bien sûr, quelle forme pourrait prendre cet engagement?
Il y a 5 hypothèses pour la question de l'envoi des troupes. Il y a d'abord, première hypothèse, pour aller très vite, qui est évidemment les actions de déminage, de soutien, de formation. Deuxièmement, ce serait la participation à l'acquisition de cibles, notamment d'artillerie. Troisièmement, ce sur quoi j'insiste, la sécurisation des zones libérées
l'idée de l'Ukraine par l'envoi de troupes qui permettrait en quelque sorte de dire à Poutine « tu n'iras pas plus loin parce que vous aurez des troupes sur le terrain » et aussi qui permettrait à Poutine de dire « attention, nous avons des troupes déployées dans un certain nombre de régions, si vous continuez vos frappes indiscriminés, qui sont des crimes contre l'humanité, contre les bâtiments civils, les écoles, les hôpitaux, etc., comme en Syrie, comme en Tchétchénie avant, eh bien, il y aura des troupes, donc vous allez prendre le risque de frapper des troupes. Et donc là, nous pouvons activer l'article 5 de l'OTAN, et ça, Poutine en a preuve. Quatrièmement, action, comme je le suggérais le 24 février déjà, de notre part, par le biais de frappes aériennes, sans nécessairement des troupes au sol massives, en tout cas d'éléments russes pénétrés en Ukraine, voire de lanceurs russes situés sur le territoire russe. Et cinquièmement, engagement direct. Il faut bien voir que cet engagement direct de troupes aux côtés des troupes ukrainiennes, enfin donc de troupes de pays de l'OTAN, ce n'est certainement pas ce qu'il faut suggérer. Ce n'est certainement pas ce qu'il faut souhaiter. C'est ce qu'il faut précisément éviter. Et je pense qu'Emmanuel Macron est parfaitement clair là-dessus, moi aussi. En revanche,
mais il faut dire que c'est possible.
Mais ça doit être d'abord une possibilité. Et si précisément nous n'avons pas franchi toutes les autres étapes, c'est-à-dire avec un engagement total en termes de livraison d'armes, et là nous sommes, nous, enfin Européens, Occidentaux, très loin de ce qu'il faut en matière d'avions de chasse, de nombre de missiles à longue portée, etc., que si nous allons plus loin dans ce type d'engagement, fourniture d'armes et engagement, déploiement de forces pour sécuriser les zones libérées, à un certain moment, cet engagement de notre part deviendra inévitable. Et il faut précisément l'éviter. Mais encore une fois, ça dépend de nous, que nous l'évitions ou non.
C'est ce genre de message fort qu'il faut envoyer à Vladimir Poutine, selon vous. On a vu que la déclaration d'Emmanuel Macron avait suscité des crispations, des tensions au sein des Européens. Comment est-ce que ces crispations, ces tensions sont-elles analysées, selon vous, à Moscou ?
Disons que Moscou essaye toujours de diviser les Européens, c'est évident. Et que dès que vous avez un motif quelconque de division, évidemment, ils sautent dessus. En revanche, moi, ce que je constate, c'est que aussi bien vous avez eu un certain nombre de cris d'orfraie tout de suite, bien sûr de pays qui ne veulent pas entendre parler d'engagement, comme par exemple l'Allemagne, ou bien sûr de pays qui sont des chevaux de Troie de Moscou, hein, comme la Slovaquie de Fico ou la Hongrie d'Orban. Autant vous avez eu de plus en plus de pays qui commencent à s'y rallier. Un certain nombre de pays nordiques, vous avez eu depuis le début, dès le premier jour, les pays baltes, la Pologne aujourd'hui, c'était pas le cas tout au début, mais la Pologne aujourd'hui soutient tout à fait cette initiative, ce principe, encore une fois. Là où vous avez une réticence, et c'est ça qui m'inquiète le plus, et aujourd'hui paradoxalement, et d'ailleurs revenant là, de mon quatrième voyage en Ukraine, hein, depuis le début de la guerre, je peux le dire, je vois que les critiques les plus vives et les inquiétudes les plus vives aujourd'hui se portent du côté ukrainien sur les États-Unis, non pas uniquement à cause du blocage de la Chambre, hein, par le speaker de la Chambre des représentants, Mike Johnson, mais aussi parce que Biden, qui a joué un rôle décisif au début dans le soutien à l'Ukraine, est toujours à mi-chemin. Et que lui, par exemple, il ne veut pas du tout entendre parler de troupes, effectivement, au sol, parce qu'il a peur que les États-Unis soient impliqués dans un conflit au-delà de ce qu'il souhaiterait. Et que, déjà, Biden avait donné un très mauvais signal, vous savez, avec son discours du 31 août, après le 2021, pardon, sur le retrait des troupes d'Afghanistan, où il a dit plus de troupes au sol. En mars 2022, il avait encore dit « Ah mais non, nous n'interviendrons jamais avec des troupes américaines en Ukraine ». C'est le très mauvais signal. C'est le signal qu'attend Poutine. Et c'est pour ça que les Américains sont très critiqués aujourd'hui, en Ukraine aujourd'hui, parce que leur engagement ne paraît pas complètement déterminant et total.
On a un Biden qui hésite et on a aussi la perspective d'une victoire de Donald Trump aux États-Unis. Et justement, vous rentrez de Kiev. Comment ce débat au sein des Européens est-il appréhendé par les autorités ukrainiennes ?
Alors, d'abord, vous avez visiblement une position aujourd'hui de la France qui est fortement confortée. Moi, en discutant avec beaucoup d'Ukrainiens, parce que j'étais invité pendant deux jours pour parler au Kyiv Security Forum, des officiels, des intellectuels, des spécialistes de sécurité, je m'aperçois que véritablement la position de la France est appréciée aujourd'hui. Et on la distingue beaucoup de celle de l'Allemagne et des États-Unis, notamment, même si le président Zelensky, qui est assez adroit, considère que c'est aux Ukrainiens d'abord de défendre leur pays, qu'il y a une forme de fierté, effectivement, de l'Ukraine de s'engager, il l'a dit publiquement, et il comprend aussi, parce parce qu'il est intelligent, il est communicant, il connaît aussi les réticences des opinions européennes qu'il faudra faire évoluer sur le temps long. Mais donc ça, c'est une chose qui est très appréciée. Et moi, je suis très frappé de voir que je n'arrête pas d'être contacté, que ce soit d'ailleurs quand j'étais en Ukraine ou maintenant, par un certain nombre d'analystes, voire d'officiels américains, allemands, polonais, baltes, des pays nordiques, etc., qui sont particulièrement intéressés par la position d'Emmanuel Macron et qui disent « Ah, mais c'est quand même assez intéressant, il a changé », puis qui voient d'ailleurs la concordance justement avec ce que j'ai pu écrire, etc. Ils se disent « Mais il y a quelque chose qui est en train de se passer ». Et eux-mêmes, par exemple, je pense aux Allemands notamment, si ton président, ils me disent, pouvait convaincre notre chancelier, ce serait quand même une très bonne chose. Je crois qu'il y a peu de chance.
Et alors justement, comment on peut expliquer ce changement de position du président français? Parce que quand même, on se souvient des contacts qu'il a eus longtemps avec Vladimir Poutine après le début de la guerre, et en juin 2022 encore, il disait ne pas humilier la Russie.
Alors, je pense qu'effectivement, pendant très longtemps, je l'ai beaucoup critiqué pour cela, depuis concrètement 2017, voire même un peu avant, parce qu'il avait des positions aussi un peu ambiguës, même quand il était ministre de l'économie de François Hollande. Je rappellerai toujours en 2016, un voyage à Saint-Pétersbourg, où il disait qu'il faudrait peut-être s'acheminer vers la levée des sanctions. Puis il y a eu toutes les idées, la folie de cette espèce de nouvelle architecture de sécurité, de confiance, c'était les termes, avec la Russie, toutes ces phrases sur ne pas humilier Vladimir Poutine, sur les peuples frères, sur il faut des garanties de sécurité à la Russie, ça encore début de la guerre, de la nouvelle guerre. Je pense qu'il a d'abord compris qu'il n'y avait aucune possibilité de négocier avec Vladimir Poutine. Je pense qu'il a compris, trop tardivement, mais il l'a compris, cela. Deuxièmement, je pense qu'il a tout à coup découvert une sorte d'abîme devant lui, avec une sorte de vertige. C'est que la guerre redevenait possible en Europe et que si on laissait faire Poutine, la guerre était là. Et que, en fait, d'ailleurs, et je pense que c'est aussi une des raisons de son engagement plus fort, qu'il a compris que même si l'Ukraine gagne cette guerre, ce qui est absolument indispensable, il faudra continuer dans notre politique de fermeté à l'égard de la Russie, que c'est quelque chose qui est un problème beaucoup plus global que celui de l'Ukraine.
Vous dites qu'il faut être dur avec la Russie. Alors comment sortir de cette guerre? Vous écrivez, il ne saurait y avoir d'armistice, mais uniquement une capitulation sans condition.
Oui, parce qu'il faut avoir une stratégie de long terme avec la Russie et il faut aller jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il faut finir le travail. C'est-à-dire que non seulement, il faut bien sûr que militairement, la Russie soit défaite en Ukraine, mais il faut aller plus loin. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut accepter qu'aujourd'hui, que la Russie détienne toujours 20% du territoire géorgien, soit présente en Transnistrie, continue, elle a repris avec beaucoup de force depuis quelques mois, ses attaques indiscriminées contre les civils syriens dans la région d'Idlib, on en parle beaucoup trop peu d'ailleurs, qu'il y ait cette alliance avec la junte birmane, qui est ses politiques de criminels en Afrique. Donc il faudra aller plus loin. Alors ça ne suppose pas évidemment d'envoyer des troupes sur Moscou. Je veux dire, il ne s'agit pas de caricaturer les choses. En revanche, de garder notamment, par exemple, une politique de sanctions extrêmement forte, beaucoup plus forte d'ailleurs qu'aujourd'hui, parce que ça aussi c'est un élément que je développe. Il faut aller beaucoup plus loin dans les sanctions à l'égard de la Russie, tant que d'abord les criminels de guerre ou contre l'humanité, ou les criminels de génocide n'auront pas été jugés, tant que les réparations n'auront pas été payées, tant que les enfants ukrainiens déportés en Russie ne seront pas revenus. Donc il faut garder une politique de pression maximale. Mais ce qui m'inquiète, c'est de voir que, par exemple, à Washington, ou dans la plupart des capitales européennes, vous n'avez absolument pas de stratégie de long terme envers la Russie.
Merci Nicolas Tenzer.
Merci à vous.